Voix Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour à tous et à toutes. Le monde aujourd'hui, édition du lundi 20 novembre 2017. En direct de Washington, Idrissa Seloudia et Anne Albertson. Nous commençons par les titres.
Au Zimbabwe, le président Robert Mugabe pourrait faire face à une procédure de destitution aujourd'hui. Il a dit clairement dans un discours télévisé hier soir qu'il ne démissionnera pas.
Au Kenya, décision attendue aujourd'hui de la Cour suprême sur deux recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre remportée par Uhuru Kenyatta.
Au Burkina Faso, nouveau tir sur l'avenue Kwame Nkrumah à Ouagadougou, cible de deux attaques terroristes depuis 2016.
En Guinée, au moins trois responsables du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée ont été arrêtés à Conakry.
L'Arabie Saoudite assure qu'elle ne restera pas les bras croisés face à ce qu'elle a appelé la politique agressive de l'Iran.
En Allemagne, la chancelière Angela Merkel et son parti conservateur ont échoué dans leur tentative de former un gouvernement de coalition.
Et ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
Dans un discours à la Nation, dimanche, le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, a défié les attentes en s'abstenant de démissionner, allant jusqu'à affirmer qu'il présiderait le mois prochain le congrès de son parti. Le point avec Yakuba Ouédraogo.
Le congrès doit se tenir dans les prochaines semaines. J'en présiderai les débats, a déclaré Robert Mugabe à la surprise générale, quelques heures après avoir été démis de ses fonctions de président de la ZANU-PF. L'opération à laquelle j'ai échappé n'a pas remis en cause mon autorité en tant que chef de l'État et commandant en chef de l'armée, a estimé Robert Mugabe, flanqué de plusieurs hauts responsables militaires. Quels que soient les pour et les contre de l'opération de l'armée, moi, en tant que commandant en chef, je reconnais les problèmes qui ont été soulevés, a-t-il ajouté, avant de critiquer, je cite, les messages contradictoires du gouvernement et du parti. Fin de citation. Dans un discours retransmis en direct à la télévision d'État. Ce discours est totalement déconnecté de la réalité. Nous soutiendrons toute procédure de destitution et appelons à manifester mercredi, a réagi le chef de l'Association des anciens combattants, Chris Mutsvangwa. Plus tôt dimanche, la ZANU-PF avait annoncé qu'elle destituerait le président s'il ne remettait pas sa démission d'ici à ce lundi midi.
Au Kenya, la Cour suprême se prononce aujourd'hui sur deux recours demandant l'invalidation de l'élection présidentielle du 26 octobre organisée après l'élection historique, après l'annulation historique de l'élection du 8 août. Le scrutin du mois dernier a été remporté avec 98% des voix par le président sortant Uhuru Kenyatta en l'absence de son rival Raila Odinga qui a décidé de boycotter le scrutin. La plus haute juridiction kényane doit dire si la présidentielle d'octobre a été conduite en conformité avec la constitution progressiste de 2010.
Dans l'attente de ce jugement, la tension est montée d'un cran dans le pays. Trois personnes ont été tuées par balle vendredi dans des manifestations réprimées par la police de partisans de l'opposition venus accueillir M. Odinga de retour d'une visite de 10 jours aux États-Unis. Et dimanche, les échauffourées ont éclaté entre la police et des habitants d'un bidonville de Nairobi, Matare, après la découverte de 4 cadavres gisant dans leur sang sur la chaussée.
Au Burkina Faso, la police et la gendarmerie affirment être à la recherche du ou des conducteurs d'une fourgonnette à partir de laquelle des coups de feu ont été tirés hier soir sur l'avenue Kwame Nkrumah, cible de deux attaques terroristes depuis 2016. Selon notre correspondant ou notre collègue Bagassi Koura, les commerces avaient fermé peu après 21h sur l'avenue au centre de Ouagadougou, mais la circulation a pu reprendre peu après.
Le Niger a convoqué hier l'ambassadeur de Libye à Niamey pour faire part de l'indignation du président Issoufou sur la vente de migrants africains comme esclaves en Libye. C'est ce qu'a annoncé le ministre des Affaires étrangères Ibrahim Yakoubou. Monsieur Yakoubou a ajouté sur son compte Twitter avoir notifié aux diplomates libyens que tout doit être mis en œuvre pour faire cesser cette ignominie dont les auteurs doivent être sanctionnés. Porte du Sahara, Agadez, plus grande ville du nord du Niger, est une plaque tournante du trafic d'êtres humains voulant gagner l'Europe via la Libye voisine.
En Guinée, au moins trois responsables du syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée ont été arrêtés à Conakry pour, je cite, « déclenchement d'une grève illégale ». Selon le syndicaliste Aboubakar Souma, ses camarades ont été arrêtés après une réunion. Ils ont été conduits vers une destination tenue secrète, a-t-il dit, ajoutant qu'il vit lui-même caché depuis mercredi. Le syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée est en proie à des dissensions internes. Certains de ses membres ont appelé à une grève générale illimitée depuis lundi dernier et les élèves sans enseignants ont provoqué des violences, dont des affrontements avec les forces de l'ordre.
Au Maroc, au moins 15 personnes, des femmes venues chercher de la farine, ont été tuées hier dans une bousculade provoquée par une distribution d'aide alimentaire dans un village de la région d'Essaouira, dans le sud-ouest. Des détails avec Nathalie Barge.
Une foule de femmes s'était rassemblée en matinée sur une place du marché de Sidi Boulalam pour bénéficier de la distribution de farine de blé organisée chaque année par un notable. Les gens se sont bousculés, ils ont fait tomber les barrières. Les autorités locales sur place ont été débordées, a expliqué un médecin qui a assisté à la bousculade, ajoutant que les gens continuaient de se disputer même quand il y avait des personnes à terre. Au moins 15 femmes ont été tuées et 10 personnes blessées, dont 2 dans un état critique, qui ont été évacuées par hélicoptère au CHU de Marrakech. Une enquête a été ouverte pour déterminer les circonstances de l'incident et établir les responsabilités. Le roi Mohamed VI a donné des instructions pour apporter l'aide et le soutien nécessaires aux familles des victimes et aux blessés. Il a également décidé de prendre en charge personnellement les frais d'obsèques des victimes et de soins des blessés.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le chef de la diplomatie saoudienne a affirmé que son pays ne restera pas les bras croisés face à la politique agressive de l'Iran. Abel Al-Joubeir l'a souligné lors d'une réunion extraordinaire de la Ligue arabière au Caire. De nouveau, Nathalie Barge.
L'Arabie saoudite ne restera pas les bras croisés face aux agressions de l'Iran et n'épargnera aucun effort pour défendre sa sécurité nationale et protéger son peuple, a dit le ministre saoudien. Le chef de la diplomatie du Bahreïn s'en est également pris à l'Iran et aux mouvements qui lui sont alliés. Le plus important bras de l'Iran dans la région en ce moment est le bras du Hezbollah terroriste, a affirmé Khaled Ben Hamad Al-Khalifa, ajoutant que le Liban est sous le contrôle total de ce parti. L'Iran dément être à l'origine des troubles dans la région et pointe du doigt son rival saoudien. Cette rencontre intervient à la suite d'un tir de missile des rebelles houthis du Yémen en territoire saoudien le 4 novembre et d'un attentat contre un oléoduc à Bahreïn le 10. Selon une source diplomatique, Riyad cherche à faire adopter une résolution portant condamnation de l'Iran et des milices arabes liées à ce pays.
Israël a des liens secrets avec plusieurs pays arabes, mais ne dit pas lesquels à la demande de ces derniers, a affirmé hier le ministre de l'Énergie Yuval Steinitz sur la radio militaire. Cette déclaration intervient quelques jours après un rare entretien accordé par le chef d'état-major israélien à un site d'information, Elaf, fondé par un homme d'affaires saoudien et basé en Grande-Bretagne, qui avait alimenté les spéculations sur un rapprochement entre l'État hébreu et l'Arabie saoudite contre leur ennemi commun, l'Iran.
Angela Merkel et son parti conservateur ont échoué hier soir dans leur tentative de forger une coalition pour diriger l'Allemagne, plongeant ainsi la première puissance européenne dans une crise politique inédite, crise qui pourrait signer la fin de la carrière politique de la chancelière. Après plus d'un mois de laborieuses tractations entre démocrates chrétiens, CDU, CSU, où d'Angela Merkel, écologistes et libéraux du FDP, ces derniers ont jeté l'éponge en estimant que les positions étaient trop antagonistes pour passer un accord de gouvernement pour les 4 ans à venir. Les Allemands pourraient donc devoir retourner aux urnes au début de l'année prochaine.
Un puissant séisme de magnitude 7 s'est produit aujourd'hui au large de l'archipel français de Nouvelle-Calédonie dans l'océan Pacifique. Ce séisme a provoqué la frayeur des habitants, mais pas de dégâts notables selon les autorités locales. Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco Arzuma Compaoré.
Le président ivoirien Alassane Ouattara veut rendre l'agriculture plus résiliente au changement climatique et moins vulnérable aux fluctuations des prix mondiaux. Il a affirmé vouloir défendre les producteurs de cacao de la spéculation en promettant de stocker du cacao pour influer sur la demande et rendre aux paysans le fruit de son travail. Toujours selon lui, un investissement important de plus de 1,5 milliard de dollars est nécessaire. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial de cacao et ce secteur, premier employeur du pays, a subi de plein fouet la chute de 40% des cours depuis juillet 2016. Le gouvernement gambien veut restructurer sa lourde dette. Selon le ministre des Finances Amadou Sané, la dette gambienne représente actuellement 120% du PIB et nécessite une restructuration pour permettre au pays d'avoir une marge de manœuvre pour lancer un plan de développement. Le nouveau président de la Gambie, Adama Barrow, a présenté un plan de développement de 2,4 millions de dollars qui seront investis dans l'énergie, les infrastructures et l'agriculture. La presse électronique guinéenne jubile pour la levée de 14,6 milliards de dollars en quête de fonds à Paris pour financer les projets phares de son plan national de développement économique et social 2016-2020. Le gouvernement guinéen a reçu promesse de plus de 20 milliards de dollars d'engagement, beaucoup plus que le budget total du plan de développement.
À présent, les sports avec Élisée Ongpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football, le TP Mazembe remporte la finale aller de la Coupe de la CAF devant Supersport.
Oui, les Corbeaux assurent devant leur public en l'emportant 2-1 face au Sud-Africain de Supersport United. Un bon résultat selon Pamphile Mikhaïo qui regrette tout de même le nombre d'occasions ratées par ses attaquants.
Personnellement, ces résultats me plaît parce que j'ai gagné le match, je n'ai pas perdu, j'ai gagné par 2-1. Dommage ou malheureusement pour nous parce que l'adversaire a eu la chance de nous marquer un but, c'est qu'on n'a pas voulu que ça nous arrive. Mais c'est arrivé, c'est comme ça, c'est un match de football. On a gagné, je suis content par rapport au résultat. Et il y a un match retour à jouer.
Pamphile Mikhaïo, entraîneur de TP Mazembe, au micro de Thierry Kamoudi de Top Congo FM, notre radio partenaire. Le club de Lumbashi devra assurer samedi prochain à Pretoria. Il sera obligé de gagner à défaut d'un nul pour conserver ce titre gagné la saison dernière.
Football toujours, la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations aura lieu au Maroc à partir du 12 janvier prochain et on connaît la composition des 4 groupes.
Le tirage au sort a eu lieu à Rabat. Le Maroc, pays hôte, est logé dans un groupe A peut-être piégeux en compagnie de la Mauritanie, du Soudan et de la Guinée. La Libye, seul ancien vainqueur qualifié pour cette édition, se retrouve avec le Nigeria, le Rwanda et la Guinée équatoriale. Autre pays tête de série, la Côte d'Ivoire, plutôt bien lotie avec la Namibie, la Zambie et l'Ouganda. Et puis dans le groupe D, le Congo qui a sorti le tenant du titre, son voisin, la RD Congo en qualification, figurera avec l'Angola, le Cameroun et le Burkina Faso.
Pour le Mondial 2018, c'est Gary Lineker qui effectuera le tirage au sort.
Oui, à moins de 15 jours de l'événement, c'est l'ancien joueur anglais qui a été choisi pour effectuer ce tirage au sort. Gary Lineker, lauréat du soulier d'or au Mexique en 1986, aura la mission de conduire le tirage au sort de cette Coupe du Monde 2018 le 1er décembre prochain au palais du Kremlin de Moscou. Il sera secondé par la journaliste sportive russe Maria Komandnaya.
Au Kenya, l'équipe nationale a un nouveau sélectionneur.
Le Belge Paul Put n'a pas mis longtemps à retrouver une équipe. L'ancien sélectionneur du Burkina Faso et de la Gambie, qui a quitté son poste d'entraîneur de l'USM Alger à peine une semaine, a retrouvé un banc. Il s'est engagé pour 2 ans avec le Kenya, avec un objectif, la qualification pour la CAN 2019.
Cyclisme à présent avec l'épilogue hier du Tour du Rwanda.
Oui, et c'est Joseph Hereruya qui sort vainqueur de cette édition de 2017. Le Rwandais remporte ainsi le maillot jaune à l'issue des 7 étapes devant l'Érythréen Metkel Eyob. Il faut signaler que la dernière étape de 120 km courue dans les rues de Kigali a été remportée par le Rwandais Valens Ndayisenga en 2h58 minutes 13 secondes. On finit avec du basketball et avec vous Idrissa, les résultats de la nuit en NBA.
Toronto Raptors bat Washington Wizards 100-91. Indiana Pacers écrase Miami Heat 120-95. Golden State Warriors bat Brooklyn Nets 118-111 et Chicago Bulls battu par Phoenix Suns 113-105.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sédoudia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Tchad, persistance de la crise économique et financière, et le président Idriss Déby Itno l'a reconnu la semaine dernière à l'occasion de l'Assemblée générale de l'Union nationale des commerçants du parti au pouvoir. Il a déclaré que le train de vie des agents de l'État sera réduit. Réaction des responsables des organisations syndicales dans ce reportage d'André Kotmadjingar.
Il n'y aura pas de l'émergence, ni 2021, ni 2030. Rien.
C'est Idriss Déby Itno la semaine dernière face aux opérateurs économiques militants de son parti. Selon le président Déby, la crise est née du fait que le nombre de fonctionnaires tchadiens est passé de 18 000 en 2008 à 108 000 et le nombre des institutions est passé de 2 à 12 en 2017. Face à cette conjoncture économique due à la baisse du prix du baril de pétrole, il faut revoir la grille salariale de tous les fonctionnaires tchadiens pour l'adapter aux années d'avant-pétrole.
Avec le pétrole, de nouveaux langages sont sortis. Augmentation des primes, augmentation des salaires. La réalité nous a rattrapés. Maintenant, on est obligé de revenir en arrière. Là où nous étions en 2003, là, on vient là-bas, et c'est de là qu'on va commencer. Prime en a Saboura. Prime en a... Quand on a docteur de genoux, blues. Prime en a blues. En tout cas, oublions cela et nous allons repartir à zéro.
Une déclaration qui a occasionné une sortie médiatique ce week-end de la plateforme syndicale revendicative, un regroupement de trois centrales syndicales. Les membres de ce regroupement disent non à une éventuelle baisse de salaire des agents de l'État. Parc à Michel en est le porte-parole.
Pendant qu'on vendait le pétrole, là, on a oublié la douane, on a oublié nos recettes administratives, on a oublié qu'il faut investir cet argent-là dans l'agriculture, dans l'élevage, pour générer autre fonds demain. Si on avait bien géré cet argent, est-ce que vous croyez que la chute du prix du pétrole peut immédiatement entraîner la situation dans laquelle le pays est plongé? La plateforme ne permettra jamais, au grand jamais, à quiconque de toucher au maigre salaire des travailleurs.
Mise en garde très sévère du côté du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur, qui d'ailleurs entame une grève sèche d'une semaine à partir de ce lundi dans toutes les institutions universitaires du pays. Une grève pour revendiquer le paiement des primes et salaires des années antérieures des enseignants contractuels et vacataires. Docteur Dingaoundarbi Faustin est le chargé de revendication des anciens chercheurs.
Nous, à l'enseignement supérieur, aujourd'hui, nous gagnons déjà un demi-salaire. Parce que nos primes dont il est question, ce n'est pas les primes décrétées, mais c'est un élément du salaire qui est mis dans la subvention et c'est ce que nous gagnons. Donc, s'ils osent seulement repartir en 2003, mais cette fois-ci le Tchad s'arrêtera définitivement.
Toutes ces réactions montrent que l'année 2018 s'annonce difficile pour les fonctionnaires tchadiens déjà paupérisés par les mesures d'austérité prises en fin 2016. André Kotmadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
Votre rendez-vous quotidien 24/24 sur VOA Afrique, Ndjamena au Tchad sur 93.1 FM.
Au Burundi, de nombreuses personnes mangent les restes de nourriture dans les poubelles de Bujumbura. Dans une décharge reconnue située au nord de la capitale, des vieillards, des femmes et des jeunes se rencontrent quotidiennement pour essayer de trouver des restes de haricots, de pommes de terre et d'autres sortes de nourriture, au risque d'attraper des maladies. Un nutritionniste affirme que 50% de la population burundaise mange une seule fois par jour. La majorité des enfants burundais sont malnutris, selon l'Organisation mondiale de la santé. Reportage de notre correspondant à Bujumbura, Christophe Kurunziza.
Zone Buterere, en commune de Nahangwa, au nord de Bujumbura, une odeur nauséabonde accueille les passants une fois arrivés au dépotoir de la place où sont déversées des saletés de la capitale. On trouve des restes d'aliments laissés par ceux-là que l'on peut qualifier de plus nantis entre guillemets. Jeunes, filles, femmes et vieux se rendent vers cette place pour chercher de quoi manger. Cette femme connaît la place depuis plusieurs années. Témoignage.
Ça fait longtemps que je me dirige vers cette place. Tout autour, il y avait avant des arbres un peu partout, jusque là où nous sommes. Je viens ici creuser des restes de nourriture à cause de la faim et de la misère. Vraiment, ça fait de nombreuses années que je m'y rends régulièrement. Même aujourd'hui, où je suis devenue vieille, je suis là à cause de la faim, car souvent le soir et à midi, nous n'avons rien à manger.
Une autre femme, sexagénaire, nous indique ce qu'elle ramasse pour manger dans ce dépotoir.
Pour dormir, je ramasse souvent des restes de pommes de terre dans ces saletés que je cuis et mange avec ma famille. Souvent, je trouve des haricots qui sont emballés dans un sachet. Après avoir cuit ces haricots, je mange et après je prends un verre d'eau et je dors comme ça.
Si ces femmes sont souvent dans ce dépotoir de Buterere, nombreuses sont celles qui deviennent malades après avoir consommé les restes de ces nourritures trouvées dans les poubelles. Cette maman à la cinquantaine nous parle de ces maladies.
On mange tout ce que l'on trouve ici. C'est Dieu qui nous maintient en vie. Souvent nous avons la malaria, la typhoïde et des diarrhées récurrentes, mais on n'y peut rien. On mange comme ça.
Jean Nianogueye est un nutritionniste qui est au fait de la situation. Il nous brosse un tableau critique de la situation alimentaire au Burundi.
On ne peut pas dire que la situation alimentaire et nutritionnelle est vraiment en bonne position. Et pour preuve, selon une étude réalisée par la FAO en 2016, environ 50% des enfants de moins de 5 ans ont la malnutrition chronique. Et selon la même organisation, appuyée par aussi l'OPAM, plus de la moitié de la population burundaise mange une fois par jour. Vous voyez que c'est inquiétant. Dans beaucoup d'écoles, il y a des abandons scolaires dus aux problèmes alimentaires.
Il faut aussi souligner que dans ce dépotoir de Buterere, la population mange sans se laver les mains à côté des mouches qui pullulent. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Retrouvez-nous sur VOA Afrique à Bujumbura sur 94.9 FM au Burundi.
Au Sénégal, le manque de renouvellement générationnel dans les partis politiques se pose avec beaucoup d'acuité, principalement dans les formations politiques de gauche. Ces dernières perdent de plus en plus d'électeurs au fil des scrutins et se retrouvent avec une cote de popularité de plus en plus faible. Les dernières élections au Sénégal ont mis en lumière ces difficultés qui obligent certains partis à recourir à des coalition pour faire face, pour faire aussi bonne figure. Certaines formations politiques de gauche n'attirent plus les jeunes, nous dit de Dakar notre correspondant Seydina Abagay.
Moi, je pense que les partis de gauche ont commis cette erreur de ne pas avoir renouvelé les directions très tôt.
Moussa Sarr, porte-parole de la Ligue démocratique, reconnaît que le manque de renouvellement générationnel a plombé l'attractivité des partis de gauche.
Et ça me fait très très mal de voir des générations de jeunes qui étaient bien formés mais qui ne sont pas arrivés aux directions respectives de nos partis. Le gâchis a été énorme. Ceux qui ont créé les partis, est-ce qu'ils ont manqué de confiance à l'égard des jeunes ou est-ce que les jeunes ne se sentaient pas suffisamment costauds pour bousculer, disons, la vieille génération et prendre les rien des partis, je ne sais pas. Mais le constat est là.
Du côté du Parti de l'indépendance et du travail, le renouvellement générationnel n'est pas à l'ordre du jour. Pour eux, les enjeux sont ailleurs, comme l'affirme Ibrahim Sen, membre du directoire du parti.
Au lieu de parler d'alternance démocratique, d'alternative sociale, on dit oui, alternance générationnelle, leadership femme. Alternance générationnelle, c'est une déviation politique que les gens veulent faire entreprendre pour que vous laissiez la lutte pour la justice sociale, la démocratie, et le socialisme.
Au Parti socialiste, la défaite à la présidentielle de 2000 a permis de redonner une place de choix aux jeunes. Après 40 ans au pouvoir, le parti s'est appuyé sur sa jeunesse pour se reconstruire.
Les jeunes ont commencé à nous tourner le dos depuis 1988. L'électorat du Parti socialiste diminuait d'année en année. Après 2000, maintenant, il y a une période de vache maigre. Heureusement que nous avions des jeunes, des moins jeunes et des femmes très braves qui ont fait vraiment un travail remarquable autour du secrétaire général pour arriver à relooker le parti et à ce que ce parti-là puisse nous attirer d'autres jeunes.
Pour Moussa Sarr, porte-parole de la Ligue démocratique, le seul à avoir réussi à intégrer les jeunes dans son système politique est le Parti démocratique sénégalais.
Abdoulaye Wade, vous remarquerez, quel que soit ce qu'on peut lui reprocher, il peut avoir tous les péchés du monde, mais il a pu à un moment mettre en avant les jeunes. Et vous remarquerez que la scène politique aujourd'hui au Sénégal, pour l'essentiel, est occupée par cela qu'Abdoulaye Wade a formé. Des jeunes qu'Abdoulaye Wade a formés, vous prenez les Macky Sall, les Souleymane Déné Ndiaye, les Moudou Diagne Fada, tout ça c'est des jeunes qu'Abdoulaye Wade a formés et a responsabilisés. Alors pendant ce temps, les partis de gauche ont tardé de renouveler leur direction. Certains qui ont créé ces partis sont aujourd'hui en retraite de la vie politique ou en retrait. Et malheureusement, les jeunes qui ont été formés n'ont pas été responsabilisés à temps.
Le renouvellement générationnel n'est pas une priorité dans beaucoup de formations politiques sénégalaises. Les jeunes occupent généralement des postes dans des mouvements dédiés et sont très rarement appelés à des postes de responsabilité au niveau des directions politiques. La plupart des partis sont toujours dirigés par des membres fondateurs. À Dakar, Seydina Abagueye pour VOA Afrique.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24h sur 24.
En Côte d'Ivoire, la quatrième édition du SARA, le Salon international de l'agriculture, a ouvert ses portes vendredi dernier. Quelques 600 exposants en provenance d'une vingtaine de pays prennent part à ce salon. D'Abidjan, les précisions de notre correspondant Georges Ibrahim Tunkara.
C'est le plus grand rendez-vous du monde agricole, halieutique et forestier de la sous-région ouest africaine, le SARA, le Salon international de l'agriculture d'Abidjan. Et comme pour les précédentes éditions, ils sont plus de 600 opérateurs économiques ou acteurs du secteur agricole à avoir fait le déplacement d'Abidjan pour montrer leur savoir-faire.
Ousmane Sembara, nous sommes maliens, nous sommes venus avec les Balibali améliorés. Balibali, c'est une race de moutons du Mali. On est venu pour exposer ça, pour montrer au peuple ivoirien et au peuple africain aussi.
Je m'appelle Philippe Koulibaly et je représente l'entreprise Agrobiotech. Agrobiotech est le premier laboratoire commercial de micropropagation par la tissiculture en Afrique de l'Ouest. Donc nous proposons des vitroplants que nous obtenons par multiplication ou par clonage simple. Le SARA est notre toute première exposition et on voit vraiment que la demande est présente ici par rapport aux semences et au matériel végétal de bonne qualité et de fort rendement que nous proposons.
Moi je m'appelle Anne Hébert, je suis en charge de la communication dans un organisme qui s'appelle le CIRAD. Nous travaillons, nous en tout cas en tant que recherche agronomique, auprès de producteurs, auprès de structures locales, auprès des États.
Depuis vendredi, les chapiteaux de ce salon de l'agriculture sont pris d'assaut chaque jour par des milliers de visiteurs. Et parmi eux, il y a ceux qui sont à la recherche d'opportunités d'affaires.
C'est vrai qu'on est ivoirien, mais on ne vit pas forcément ici. Donc on vient voir un peu ce que le pays a à offrir. Et puis si on a des opportunités aussi, c'est d'essayer de poser des questions pour que les professionnels présents à ce salon puissent donner des éléments de réponse. Notamment si on veut s'engager dans l'agriculture, dans les produits vivriers, il y a énormément d'opérateurs économiques qui sont là et justement ça permet de poser quelques questions et puis après on peut se faire une certaine idée et puis on peut se lancer justement dans ce genre d'activité là. Donc voilà ça.
Je me suis passé voir et avec moi et puis m'imprégner un peu des réalités, puis voir s'il y a du matériel, surtout dans le domaine phytosanitaire puisque au village on aide un peu les dames à faire des maraîchères et tout ça. Donc on est venu, on a vu, on a vu. Maintenant, on va essayer de voir après ce qu'il y a comme contact. Mais déjà, je vois que c'est bien, c'est bien. C'est bon. Il y a beaucoup de choses.
La transformation structurelle de l'économie agricole face au changement climatique, c'est le thème de cette quatrième édition du SARA qui refermera ses portes le 26 novembre prochain. Abidjan, Georges Ibrahim Tunkara, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24h sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Daryl Smith. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sidoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.